BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de TPI Tout pour investir sur BFM Business, l'émission qui parle de vos finances personnelles, de votre épargne, de vos petits trésors. On est en direct évidemment à la radio, à la télé, sur le web et vous trouvez l'entièreté de nos chroniques sur les replays et podcasts sur le site bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, un petit best-of de tous les sujets qui vous ont passionné au terme de la première partie de l'année. La crypto. Oui, où va le Bitcoin? Là, il y a quand même un gros coup de mou dont on ne voit pas le fond. L'IA, où est-ce qu'on va? La souveraineté, l'inflation, les small et mid caps. Et comment on investit, hein? Comment on ajuste la voilure pour affronter un été qui s'annonce turbulent, ça? On vous prévient, hein, ça va être le cas. Et une deuxième partie d'année très très indécise. Alors tout le monde est sur le pont ce matin. Nos déchiffreurs, Léa Lejeune de Plan Cash et Bastien Baron de Justae. On aura Andrea Tueni de Saxo Bank qui passera une tête pour son plan de trading du jour si vous êtes exposé aux actions. Et plutôt une tendance haussière là ce matin sur les marchés et en particulier à Paris. Eric Lewin pour les small et mid caps. Focus particulier sur l'IA, sur le cloud, sur la souveraineté, comment investir ces problématiques avec nos amis de Carré Partners que vous entendez souvent à l'antenne. Et puis un point patrimoine particulier, le sujet de la transmission continue à vous intéresser, beaucoup de questions là-dessus. Et alors notamment pour vous, entrepreneurs qui nous écoutez, on a parlé de la possession hier, aujourd'hui focus particulier sur la holding dans la boîte à outils. Et on vous donnera toutes les bonnes pistes pour la monter, la gérer, tenir compte des derniers ajustements législatifs, notamment sur la dernière loi budgétaire. Et on sera pour en parler avec les experts de Neuflize OBC tout à l'heure, une boîte à outils à ne pas manquer et à écouter et à réécouter évidemment sur les replays, les podcasts. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par email, l'adresse est directe à bfmbusiness.fr, nous envoyer un SMS au 732-16, tapez le mot-clé business suite, votre question, et sinon, vous posez vos questions directement sur mes comptes Twitter et LinkedIn et je me charge d'essayer de vous répondre en cours d'émission. Le reste de l'actualité du jour, alors c'est le coup de tonnerre et puis le coup de désespoir à la bourse. KNDS repousse son introduction, le groupe franco-allemand au cœur du projet de char du futur. Le groupe qui préfère attendre le retour de conditions de marché plus favorables, disent-ils dans un communiqué. Le groupe d'armement justifie sa décision par une volatilité trop forte du secteur européen de la défense. Cette opération lancée le 24 juin qui devait avoir lieu à la Bourse de Paris et de Francfort devait être l'une des plus importantes introductions en bourse récente dans la défense européenne, avec une valorisation qui pouvait dépasser les 12 milliards d'euros. Marie-Lise Léon tape du poing sur la table concernant la gestion du réchauffement climatique. Dans un entretien au Monde, la secrétaire générale de la CFDT appelle le gouvernement à se montrer beaucoup plus volontariste. Elle juge que les entreprises sont insuffisamment mobilisées sur cette question et souhaite mettre en place un bouclier social climatique. Elle met en avant l'exemple espagnol. Le gouvernement a notamment instauré des sanctions pouvant aller jusqu'à 30 000 euros quand les salariés sont exposés à des risques. Canal+ arrête de diffuser plusieurs chaînes du groupe TF1 en France, en Suisse et en Afrique. Le groupe de Vincent Bolloré dit regretter cette décision mais la justifie par l'échec des discussions avec TF1 après plusieurs mois de négociations du côté de la filiale de Bouygues. On dit aussi regretter ce choix qui fragilise le secteur du documentaire, notamment dans son ensemble. Un épisode qui rappelle le conflit qui avait opposé les deux chaînes en 2022. À l'époque, l'ensemble des chaînes de TF1 avait été coupé. Fini les disques pour Sony. Ces nouveaux jeux PlayStation ne seront plus disponibles qu'en version dématérialisée à partir de janvier 2028. Les joueurs les téléchargeront sur le store en ligne ou obtiendront un code de téléchargement auprès de revendeurs. Une page se tourne, hein, le géant japonais justifie sa décision par un changement de tendance dans les préférences des consommateurs. GTA 6 qui sortira en fin d'année ouvrira le bal et sera 100% dématérialisé. Et un troisième trimestre au-dessus des attentes pour Sodexo. Tiens, le groupe de restauration collective a réalisé plus de 6 milliards d'euros de ventes, plus 0,9% par rapport à l'exercice précédent. Sodexo, du coup, rehausse son objectif de croissance pour l'exercice en cours, désormais attendu entre 1,2 et 1,5% contre 0,5 à 1% précédemment. On reste quand même sur le fil du rasoir. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Et ça se passe bien à Paris ce matin avec un CAC 40 qui reprend un petit peu de hauteur. Mais enfin, voilà, globalement, on bouge plus trop des 8400 points. On reste juste en dessous à 8387, plus 0,6% pour le CAC 40 qui nous fait une séance de hausse, une séance de baisse, une séance de hausse. Voilà. Connaissez la suite, mais globalement, on tourne autour un peu des mêmes niveaux. À noter quand même une tendance plutôt négative du côté de la tech. Le Euronext Tech Leaders perd 1,34%. Mais alors, à noter qu'on est dans le sillage d'une séance particulièrement compliquée encore du côté de la Corée, du côté du Japon, où il y a eu des prises de bénéfices massive sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Le Kospi à Séoul, moins 8%, et en particulier Samsung et SK Hynix, hein, tout tourne autour des mêmes titres. TSMC du côté de la bourse de Taïwan. Donc du coup, une tendance vraiment négative du côté de la tech. L'Eurostox 50 gagne 0,22%, le DAX à Francfort plus 0,42%, et ce sont encore une fois les valeurs traditionnelles qui nous sauvent à Paris. Bah, tiens, la plus forte hausse de lundi, c'est quand même Carrefour. En termes de valeurs traditionnelles, ça se pose là. Plus 4,17, on est à 16,36. ArcelorMittal plus 3,8% à 54 €. On a Pernod Ricard qui gagne 2,5% à 63,52. Euronext plus de 27 à 144,10 € et Thalès plus de 27 234,60 €. À la baisse, alors l'ensemble du secteur de la tech, et cette fois pas de granularité entre les logiciels, les semi-conducteurs, etc. Il y a tout qui baisse. Dassault Systèmes moins 1,33, on est à 18,14. À noter Capgemini moins 0,93%, 89,88. ST Micro en baisse aussi, moins 0,8%, 61,88. Et puis quelques prises de bénéfices sur alors des titres exposés à l'IA et qui parallèlement avaient signé de belles performances ces dernières semaines, notamment nos spécialistes de l'intelligence électrique. Hein, Legrand moins 1,2%, 143,25. Schneider Electric, moins 0,9, 274,10 €. À noter, dans les semi-conducteurs, Soitec qui signe la plus forte baisse du SBF 120, moins 4,2%, 111,70 €. La plus forte baisse du CAC 40, elle est pour Renault, prise de bénéfice après une très belle performance hier. Moins 2,97% à 25,50 €. L'euro-dollar, 1,14,15, on ne bouge pas. Le Bitcoin arrive à rallier les 60 000 $. Ça s'est fait hier lors d'un brusque rebond, mais la tendance reste difficile. Et on va en reparler dans quelques minutes, notamment avec Léa Lejeune de Plan Cash. Et puis à noter le pétrole, 70,67 $ pour le baril de Brent de Mer du Nord. On arrive sur des plus bas qui reviennent au mois de février, alors que le brut léger américain continue de baisser à 67,80 $. Tout de suite, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Léa Lejeune de Plan Cash, donc bonjour.
Bonjour.
Et Bastien Baron de Justaé, merci d'être là en direct ce matin pour commenter, déchiffrer avec nous l'actualité du jour. Bah oui, on va parler des cryptos, parce que là, il y a souveraineté, semi-conducteurs, les cryptos, qu'est-ce que ça devient? Le Bitcoin a eu un gros rebond hier.
Oui. Après une baisse assez historique, hein, puisqu'on était à 53% de moins que la valeur maximum sur le Bitcoin depuis le début de la création.
Octobre, la valeur divisée par deux. Hein,
voilà, donc, c'est ça. Et ouais. On était sur 10% de moins dans le mois. Alors, petit rebond, mais le contexte n'est vraiment pas favorable. Et je crois qu'il faut quand même rappeler ces choses-là. Ouais. Bon, moi, j'ai tendance à penser que sur le Bitcoin, il y a les personnes qui sont des petits investisseurs et qui investissent là-dedans pour diversifier, aussi parce qu'ils croient à la technologie. Les personnes qui sont très opposées, il y en a beaucoup encore aujourd'hui dans les grandes banques, même si Crédit Agricole vient de raconter que ça y est, maintenant, ils vont permettre l'achat de Bitcoin sur leurs applications et sur leurs services en France.
Ça,
et c'est
alors,
quand même assez rare d'avoir
ont,
des... Oui, ils
et,
l'ont annoncé, ils annoncé là ça. Par communiqué de presse, tout à fait.
Dans ce contexte-là, oui.
Qui est un peu étonnant, je pense qu'ils avaient préparé depuis très longtemps et vu le temps qu'il faut les autorisations et tout.
Ouais.
Mais voilà, moi je pense qu'il y a souvent les banques traditionnelles qui sont plutôt opposées, sauf Morgan Stanley et d'autres dont on a vu aux États-Unis qui avaient revirement. Et j'ai envie de dire un peu la communauté Bitcoin qui est très fanatique.
Ceux
qui ont les mains dans le cambouis. Alors il y a évidemment ceux qui ont été investisseurs de la première heure, il y a ceux qui minent. Même si aujourd'hui miner ça rapporte beaucoup moins qu'avant. Et moi j'ai tendance à dire que de temps en temps ils ont un côté un peu croyant. C'est-à-dire il y a presque une vision du monde, une croyance là-dedans. Et bon, ceux-là, ils sont quand même un peu déçus, ils continuent à s'accrocher, hein, puisque c'est des personnes qui croient à la montée du Bitcoin sur le long terme.
Logiquement, ce sera les derniers à lâcher,
derniers à lâcher, exactement. Mais ceux-là, il y a quelques années, disaient que le Bitcoin était une valeur de réserve, que ça pouvait être le second or. Et ça, par contre, c'est quasiment impossible à justifier aujourd'hui. Quoi. Mmh. C'est-à-dire, l'or a continué à être valeur de réserve quand il y a des grosses crises. D'ailleurs, là, ils viennent de rebaisser, puisqu'on sort du gros de la crise en Iran. Et le Bitcoin ne suit plus du tout ces fluctuations, sérieux, pas sérieux. On reste dans un moment d'aversion au risque sur les marchés.
De manière générale, oui.
Voilà, de manière générale. Donc, le Bitcoin n'est pas forcément en roi. Et puis, je crois qu'il y a aussi cette inflation qui reste galopante, avec un besoin de liquidité des gens. Et tous ceux qui ont vu le Bitcoin commencer à se casser la figure en octobre, il y en a une bonne partie qui ont retiré leur argent. Donc, il faut quand même regarder qu'est-ce que ça va donner sur la suite, faire attention à toutes les belles promesses qui avaient été faites. Aujourd'hui, on ne sait plus. Et moi, je dirais que vraiment, le Bitcoin, aujourd'hui, on peut considérer qu'il est corrélé à la santé des entreprises de tech américaines et des développeurs américains. Et c'est pour ça que même si en ce moment, les entreprises de tech américaines se portent encore globalement bien, même s'il y a eu des petites baisses et tout, bah les développeurs, ils sont licenciés en masse dans les grands groupes de la tech américaine. Et je crois que ça, ça reste parmi les critères qui font baisser les cryptos et qu'on ne prenait pas en compte il y a quelques années.
Oui, d'autant plus que vous parliez d'une atmosphère quasi religieuse autour de certains...
une croyance, j'ai envie de dire, voilà, il y a une sorte de croyance.
Autour de certains tenants du Bitcoin, mais finalement, on passe d'une religion à l'autre, parce qu'on passe du Bitcoin à l'exploration vers Mars, avec SpaceX, ou à l'IA. L'IA, on ne sait toujours pas où ça va, cette affaire.
Oui.
Là, il y a un côté, il y a un côté peut-être irrationnel. Alors pas.
Alors oui, ça c'est les deux. Pour le coup, on est sur les tendances. Là, voilà, on est sur les tendances. Effectivement, dans les tendances, dans la tech, dans les personnes qui ont tendance à investir toujours en amont sur ce qui fait beaucoup parler. Effectivement, aujourd'hui, ça va dans SpaceX et dans l'IA. Je dirais que c'est un petit peu différent, même si les microprocesseurs dont on a besoin pour l'IA sont aussi ceux dont on a besoin pour miner les cryptos et traiter les cryptos. Et je crois que le dernier petit facteur que j'ai oublié sur les cryptos, c'est notamment la réglementation européenne, MiCA, qui vient de rendre beaucoup plus difficile d'obtenir certains agréments dont on a besoin pour être plateforme émettrice. Et donc, on a appris là, par message, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, que Binance n'allait pas continuer ses services en France. Et donc, il y a aussi cette question de comment les plateformes de crypto-monnaie vont se positionner dans un marché dont on voit que déjà l'Europe est en train de restreindre les accès, de vouloir tout vérifier, tout suivre partout.
Voilà. Évidemment, tous les jours, 15h, hein, sur BFM Business, BFM Crypto avec Sandra Gandoin. Et elle est totalement, totalement focus sur ces problématiques. Bastien Baron, du côté des clients privés, le Bitcoin, ça fait encore partie de l'horizon d'investissement où on s'est complètement, moi je veux du SpaceX, moi je veux de l'IA, comment faire, etc. Est-ce que ça apparaît encore dans le wording du moment, si je puis dire?
Ouais, ça apparaît encore, mais plutôt sur les horizons très long terme. Je pense que ce qui a été réalisé aussi depuis, on va dire, 5 à 10 ans, c'est qu'on nous a dit qu'au départ, ça pouvait être corrélé à l'or. Mmh. On s'est rendu compte que c'était pas le cas.
Non.
Après, on nous a dit, finalement, c'est, en fait, plutôt corrélé au Nasdaq. Finalement, c'est pas le cas. Mmh. Après, on nous a dit que c'était plutôt corrélé, en fait, au coût de l'argent. C'est-à-dire, quand il y avait pas mal de liquidités, le Bitcoin pouvait suivre la hausse et finalement, inversement, quand c'était pas le cas. Et finalement, en fait, il n'y a pas du tout de corrélation réelle entre ces différents, entre les classes d'actifs. Dire qu'ils sont assez standards aujourd'hui. Et on cherche à essayer de dire le Bitcoin va fonctionner de cette façon-là. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne vraiment, à part lorsqu'il y a un halving. Et finalement, là, on voit qu'il y a une hausse qui dure quelques trimestres, après de fortes baisses. Et finalement, c'est toujours un petit peu ce qui se passe. Donc, nous, on est plutôt sur des horizons assez longs. Et du coup, se dire un petit peu comme l'or, finalement. Finalement, là, il y a eu effectivement un rallye qui a été très important pendant à peu près 18 mois. Mais là, il y a une baisse aujourd'hui. Mais sur un horizon long, on est toujours... toujours en gain, en fait, assez largement. Et normalement, ceux qui sont investis sur Bitcoin depuis 5 ans, par exemple, OK, il y a effectivement des montagnes russes, mais ils se portent toujours bien, etc.
Oui, je suis d'accord. Et ça vaut autant pour les petits investisseurs que pour les fameux croyants dont je parlais tout à l'heure.
Ou les grosses baleines qui sont positionnées.
Voilà.
Non, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de fondamentaux. On peut dire ce qu'on veut. On le voit aujourd'hui. C'est pas du tout corrélé à l'or. On voit que le marché américain, le Nasdaq, se comporte très, très bien aussi.
Ouais. On a tout le temps cherché des corrélations pour essayer d'anticiper, en fait, la trajectoire du Bitcoin. Bah non, c'est une machine qui fonctionne.
Mais regardez quand même l'état des développeurs US. Regardez, c'est un critère qui me semble être le plus pertinent pour l'instant.
Bah d'autant plus qu'il y a une grosse interrogation.
Peut-être que je me trompe et dans quelques années, on dira la même chose ce critère-là aussi.
Non mais Léa, d'autant plus qu'il y a vraiment un débat en ce moment chez ceux qui ont monté des racks entiers de cartes graphiques qui minent du Bitcoin, pour savoir à dire qu'est-ce qui est le plus rentable, miner du Bitcoin ou louer mes capacités aux hyperscalers de l'IA.
Aujourd'hui, c'est l'IA.
Voilà.
Présentement, tout de suite, c'est l'IA.
C'est clair. Dites, justement, j'y pense parce que ça va peut-être faire grimper les prix, ça aussi, l'inflation. L'inflation, là, on nous dit, ça y est, l'inflation descend en France, il n'y a plus d'inflation. Ouais. Bon, alors on va pas faire le débat entre inflation réelle et ressentie inflation, mais vous avez des chiffres, 2-3 chiffres qui parlent, qui sont clairs, nets, précis.
Ah oui, ça m'a beaucoup amusé. Alors déjà, je replace le contexte. Hein. Ouais. L'inflation en juin, elle sera de 1,8. Le mois dernier, on était à 2,4. Ce qui était intéressant, c'est que ça faisait un certain nombre de mois où l'inflation était plutôt en baisse. Puis là, c'était bien remonté. Ce qui avait poussé le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France de se dire, on va peut-être remonter le livret A à la mi-juin. Ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est un choix politique qu'ils peuvent faire. Là, je ne sais pas s'ils vont continuer à le faire. Je pense que s'ils le font, ce sera dans un tout petit dé à coudre de quelques pourcentages, quelques virgules de pourcentage, pardon. Parce que vraiment, si on est 1,8, 2,4 du mois de l'un à l'autre, finalement, cette inflation, elle est à peu près stable, quoi. Mais concrètement, j'ai vu, et je la cite, parce que c'était assez amusant, hier sur Internet, une influenceuse qui s'appelle La Petite Budgeteuse, qui a fait le calcul tout bête et méchant de regarder sur les 6 dernières années qu'est-ce que ça ferait sur le salaire médian des Français si on mesurait l'inflation et l'impact réel sur un salaire. Donc elle a pris le salaire médian de 2020 qui était plutôt autour de 2 000 €, un tout petit peu au-dessous, alors que maintenant on est plutôt à 2 200 sur le salaire médian. Et elle a fait donc ce calcul. Et ben une personne qui était payée 2 000 € en 2020 et qui n'a pas été augmentée du tout dans son entreprise depuis, c'est comme si elle avait perdu tous les mois 470 €. Pour être en pouvoir d'achat constant, elle devrait être à 2 470 € pour conserver à peu près la valeur de l'achat. Et c'est pour ça aussi que pour beaucoup de Français, ça se ressent sur le panier de course, sur les dépenses au quotidien, où on a l'impression qu'avec aussi peu d'argent, on ne peut plus faire grand-chose.
La petite budgetteuse.
La petite budgetteuse, tout à fait.
Sitôt l'émission finie, je vais aller regarder un peu sa chronique, parce que c'est... Parce qu'on est là avec des grands économistes de renom qui sont là, qui sont aux rencontres d'Aix-en-Provence, etc., dont on va beaucoup parler.
Où on va, nous aussi, cet après-midi chez Plan Cash, moment incontournable.
Oui, c'est là qu'il faut être, parce que c'est là qu'il y a la nouvelle génération, et c'est là aussi, de temps en temps, où on met le nez là où il faut. Et avec des chiffres précis comme ça, ça change un petit peu le paradigme. Bon, on a une inflation qui a tendance à ralentir. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le second semestre, Bastien Baron ?
Déjà, elle baisse effectivement beaucoup en France, un petit peu moins en Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'euro, donc c'est la zone euro en gros qui drive les taux. Donc malheureusement, là on voit qu'il y a eu une hausse des taux qui a eu lieu au début du mois de juin. Il y a quand même encore des hausses de taux qui sont plutôt anticipées d'ici la fin de l'année. Il y a quand même une baisse, je regardais effectivement les chiffres en France, aucun sujet. Et en Europe, on est à 2,8% en juin. Versus 3,2% le mois dernier. Donc on est en Europe, on est quand même à un point de plus qu'en France, et pour un objectif, je rappelle, qui est aux alentours de 2% en tout cas. Donc ce qui est prévu, c'est, il y a toujours des effets de seuil en fait. Il y a eu aussi une inflation qui est repartie assez largement à la hausse quand on a eu les sujets justement avec l'Iran, guerre en Iran, etc., avec le hausse du pétrole. On en parlait juste avant, effectivement, le pétrole là qui reflue plutôt vers les $70 le baril. Donc on va avoir en fait des choses qui vont se matérialiser dans les mois qui viennent également. Donc on peut s'attendre logiquement, s'il n'y a pas de nouvelles problématiques, avec un contexte géopolitique qui se maintient tel qu'il est aujourd'hui, plutôt à des baisses qui vont se maintenir. Et logiquement, on peut espérer qu'il n'y ait pas une boucle un petit peu d'inflation qui se crée. Ouais. Une boucle d'inflation, c'est quoi ? C'est vous avez hausse des matières premières, hausse des produits, notamment alimentaires, etc. Et ensuite, hausse des salaires. Ouais. Et du coup, là, on crée une boucle. Et du coup, là, on a un enchaînement qui est un peu plus compliqué à gérer. Si finalement, ça reste assez ponctuel, on va dire un ou deux trimestres, finalement, et qu'on voit déjà les premiers ressentis qui baissent, ça pourrait finalement stopper les hausses de taux qui sont anticipées et les impacts qui sont assez forts derrière, parce que c'est quoi ? C'est les taux d'emprunt immobilier, donc potentiellement une relance aussi du marché immobilier. Je trouvais ça intéressant, effectivement, le calcul qui avait été fait, de dire qu'il y avait fallait gagner à peu près 20% de plus en réalité sur les 6 dernières années, donc depuis 2020, on va dire.
Ce qui est assez rare, il y a très peu d'entreprises qui font ce cadeau-là.
Donc finalement, nous on regarde ça beaucoup sur l'immobilier, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent la valeur factuelle de l'immobilier, mais vu que l'inflation a pris 20%, si votre immobilier est flat, en réalité, vous avez perdu à peu près 20% en fait sur votre immobilier. Donc, c'est ça qui est assez intéressant aussi.
Deux derniers sujets là pour terminer, mais qui sont vraiment au cœur de nos débats du moment. L'énergie et la souveraineté. On sort d'une période de canicule et on va sans doute y rentrer à nouveau la semaine prochaine. Enfin, à ce qui paraît, on va pas préjuger, on va laisser les météorologues faire de la météorologie. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a dit cette semaine, investir dans la protection contre le réchauffement climatique et investir durablement pour essayer d'améliorer la situation, c'est plus compliqué que d'acheter 2-3 actions d'un fabricant d'éoliennes. C'est une philosophie. Et vous, Léa, vous avez un regard très particulier là-dessus aussi.
Oui, nous, on défend chez Plan Cash l'investissement responsable et notamment toujours garder en tête l'impact réel que ça va avoir. Mmh. Ces dernières semaines, le débat, il a été par exemple sur investir dans sa propre clim ou investir dans des actions d'entreprises de climatisation et autres. Et on a bien vu que la vraie question, c'est plus uniquement investir dans la clim ou pas. Effectivement, on va avoir besoin de rajouter la climatisation dans au moins les espaces collectifs. Oui. Mais ça va être aussi de comment refroidir nos villes, sachant que la climatisation fait plutôt augmenter la température moyenne des villes. Et donc, ne pas oublier que l'écologie, c'est pas juste l'énergie ou l'énergie renouvelable, mais c'est aussi les terrains, les forêts, les espaces verts, etc.
Oui, c'est global.
Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on pense réchauffement climatique. C'est pas simplement aller choper une opportunité d'investir dans la climatisation, mais se dire aussi ce dans quoi on investit autour. Et puis, nous, on a analysé chez Plan Cash, d'ailleurs, l'enquête est en ligne, l'investissement dans le photovoltaïque, puisqu'on a essayé de prendre le truc à l'inverse en se disant, en fait, s'il y a réchauffement climatique général, les canicules, peut-être que ça va être plus intéressant d'investir dans le photovoltaïque que ces dernières années. Alors déjà, il y a dans les actions ou dans les ETF de photovoltaïque, notamment les iShares Clean Energy Global, qui sont les ETF.
C'est le grand classique de BlackRock.
Exactement. Ouais. Et qui, en fait, c'est intéressant parce que finalement, les énergies renouvelables, c'est qu'une partie de la plupart des ETF d'investissement durable. Oui. Celui-ci est vraiment basé sur les énergies renouvelables. Il y en a un autre, attendez, je le cite, Solal Clean Energy, qui va être beaucoup plus sur le solaire. Oui, il faut faire attention parce que plus on est restreint dans ce dans quoi on investit, plus on s'expose à un secteur qui peut être fragilisé. On l'a vu sur le
temps. Pour des raisons économiques et politiques,
voilà.
Évidemment.
Parce que économique, il y a effectivement toutes les questions liées aux terres rares, dont on a besoin aussi pour fabriquer l'IA, etc., mais dont on a besoin aussi pour les panneaux voltaïques. Ouais. Et puis, on a aussi la question politique chez Trump, où il y avait eu effectivement une baisse de la valeur de ces ETF dont je parlais tout à l'heure, au moment où Trump avait décidé de supprimer toutes les aides sur le photovoltaïque aux États-Unis.
Même s'il a toujours été un petit peu plus favorable au photovoltaïque par rapport aux éoliennes.
Aux éoliennes, oui, mais vraiment là, pour le coup, il n'y a plus aucune aide publique américaine. Voilà. Il a vraiment dévalorisé dans un certain nombre de fonds et même incité certains États à favoriser des fonds qui n'allaient pas vers les énergies renouvelables. Hein. C'est drill, baby. C'est toujours la même idée chez Trump. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que sur le temps long, quand on regarde vraiment sur 5, 6, 10 ans, là, on voit que ça continue à évoluer positivement et c'est comme ça qu'il faut regarder. C'est vrai qu'à 3 ou 5 ans, on peut avoir l'impression qu'il y a une chute, mais ça reste des tendances de fond.
Bastien Baron, alors je suis désolé, il nous reste une minute, mais pour parler d'un sujet de souveraineté. On voit que du côté de Fable 5 et Mythos 5, ça y est, c'est le problème est réglé et on va pouvoir y avoir droit, nous, Européens, mais c'est une sacrée leçon à retenir. Et on voit que maintenant, même si c'est des petits acteurs, les gouvernements, les pouvoirs publics et les entreprises sont prêts à investir sur l'IA souveraine française. Européenne.
Ouais, complètement. Je pense que c'est une bonne transition parce que sur le photovoltaïque aujourd'hui, qui c'est qui drive le marché, c'est les Chinois.
Bah oui.
En gros, qui inondent le marché. Donc là, on peut se poser la question aussi, comment ça va se passer dans un second temps. Ce serait bien qu'il y ait peut-être un acteur européen qui puisse se créer, en tout cas se développer, avoir des aides.
Il y a failli en avoir un.
Oui.
Ouais. Et puis.
Non, mais là, quand on parle justement, je suis assez d'accord. On parlait de tous les équipements, notamment de clim, etc., pour tout ce qui est collectif. Donc ça a beaucoup été du public, donc ça veut dire que le public, plutôt qu'aller envoyer son argent, je pense, auprès des acteurs chinois, il y a peut-être possibilité de créer quelque chose en France ou en Europe.
Différemment, ouais.
Et c'est un peu le même sujet sur l'IA. Je pense que l'IA, là, ce qui était assez intéressant, le contexte très rapidement, c'était il y a 3 semaines, Anthropic lance Fable 5 notamment, et Mythos également. Et 3 jours après, il y a l'administration Washington, en gros, qui dit... OK, vous continuez à le lancer. Par contre, les ressortissants étrangers, on veut pas qu'ils y aient accès. Anthropic, à ce moment-là, n'a pas la main pour dire pour dire on ne sait pas exactement qui est ressortissant étranger finalement, donc on stoppe tout. Et là, on voit qu'il y a, OpenAI qui lance son nouveau ChatGPT 5.6, même sujet. Là, il y a l'administration américaine qui dit « Ok, mais ça va être trié sur le volet et ça va être uniquement avec des acteurs qu'on a choisis, notamment aux US. » Donc, on se rend compte que c'est plus juste un sujet d'IA, etc. C'est devenu des vrais sujets en fait, économiques, de souveraineté. Et autres. Et donc, il y a vraiment des conflits qui vont intervenir, je pense, dans le futur, que ce soit sur la data ou sur les modèles. Et l'IA, c'est de la data et des modèles. Donc, voilà un peu la suite. Donc, je pense qu'il y a des vrais besoins de
développer une chance sur l'IA.
Il y a encore une chance. Je pense qu'il faut mettre en œuvre. Oui.
Léa Lejeune de Plancage, Bastien Baron de Justaï, merci infiniment d'avoir déchiffré cette actualité, encore une fois, passionnante aujourd'hui. Tout de suite, les arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Andréa Tueni, Saxo Bank, vous êtes sur le pont, le CAC 40, bon, un jour une baisse, un jour une hausse. Aujourd'hui, c'est la hausse qui prédomine. On entame quand même ce second semestre avec un sentiment d'indécision qui prévalait sur la fin du premier.
Oui, c'est vrai que la tendance, elle n'est pas très claire. Elle reste quand même modérément positive, cette tendance. Ce qui est difficile sur le CAC, c'est qu'on a du mal à s'affranchir encore une fois de certains niveaux. Il y a quelques semaines, on était un peu bloqué sous ce niveau, on va dire 8259 points. C'était vraiment un niveau de résistance assez important. Bon, ça devient aujourd'hui un niveau de support. Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'affranchir de cette zone. Peut-être 8450 jusqu'à 8500, c'est des objectifs qu'on peut se fixer. C'est des niveaux de résistance. Alors, on a une résistance très très court terme à 8425 sur le CAC qu'il faudra surveiller. Mais c'est vrai que sinon, on navigue un petit peu dans un range qui est assez serré avec pas beaucoup d'amplitude au sein de ce range. Alors bon, il y a quand même des éléments qui sont positifs. C'est vrai que bon, la baisse des cours du pétrole a soutenu le secteur de la défense, donc ça c'est bien. Le secteur de la défense qui performe bien, notamment avec Safran qui est sur des plus hauts. On a la baisse des prix énergétiques qui donne une vision macroéconomique qui est plutôt positive, en tout cas plus encourageante. On a eu d'ailleurs des chiffres de baisse de l'inflation récemment et ça entretient un petit peu les projections sur la BCE. On avait des projections d'une nouvelle hausse de taux du côté de la BCE. Là, le marché, quand on analyse les swaps, on se rend compte que une hausse de taux pleine, elle n'est pas prévue maintenant avant mars 2027. Donc, du coup, on souffle un petit peu plus du côté de la BCE avec des propos qui ont été tenus aussi récemment avec Christine Lagarde. Donc, il y a quand même des points positifs qui peuvent tirer le marché vers le haut. Mais après, c'est vrai que sur la séance d'aujourd'hui, si on revient sur du très court terme, il y a les données de l'emploi aux États-Unis qui seront publiées cet après-midi et qui vont évidemment catalyser un petit peu les attentes des investisseurs. On va suivre ce chiffre de très près. Et puis, ce qu'on va peut-être préférer, en tout cas, si on se projette aussi sur les anticipations de la Fed, c'est un chiffre un peu plus faible, ou en tout cas pas beaucoup au-dessus du consensus, parce que là, pour le coup, ça pourrait renforcer un petit peu les craintes autour de la politique monétaire de la Fed, alors qu'un chiffre un peu plus faible aurait peut-être un petit peu plus rassurerait le marché sur une éventuelle baisse de taux de la Fed plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre cet après-midi et qui aura évidemment de l'importance. Et puis il y a aussi un point malgré tout qui est positif. On parle beaucoup de la tech, on n'a pas beaucoup de tech en Europe, on n'a pas beaucoup de tech sur le CAC. On voit la volatilité qu'il y a sur la tech aujourd'hui sur les indices américains, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu plus protégé justement de cette volatilité sur les indices européens et notamment sur le CAC. Et ça, sur du plus long terme, quand on se projette, ça peut être aussi un aspect positif. Donc voilà, mais pour le moment, c'est vrai qu'on a un indice qui est assez bloqué avec pas beaucoup, encore une fois, d'amplitude, des mouvements qui sont assez serrés dans un range qui est assez court. Donc à suivre cet après-midi la macroéconomie qui, encore une fois, a plus de poids par rapport à ce qu'on a pu observer sur les derniers mois, parce qu'il n'y a plus cette forward guidance du côté de la Fed et de Kevin Warsh. Et donc, du coup, évidemment, plus de réactions de marché face aux données macroéconomiques, parce qu'on peut plus projeter aussi facilement qu'avant sur la politique monétaire des banques centrales.
Et effectivement, vous l'avez noté, ce CAC 40 et les marchés européens qui résistent bien, alors en plus à la très forte volatilité du côté des marchés asiatiques ce matin. On a eu une très très forte correction du côté de la bourse de Séoul, notamment à cause de SK Hynix et de Samsung, hein, les usual suspects, mais on voit que les indices européens se portent bien et que même les semi-conducteurs européens ne subissent que des replis modérés, -0,7 pour ST Micro, Soitec, -3,7. Merci pour ce point complet, Andréa Tueni de Saxo Bank. On va passer à la boîte à outils dans quelques secondes et on va revenir sur les concepts de holding. On avait déjà esquissé un peu le sujet hier avec l'apport cession et on va se concentrer vraiment sur cette holding qu'on a traité de grand Satan il y a quelques mois. On va y revenir, on va voir que c'est une pièce maîtresse du patrimoine et notamment de vous, entrepreneurs qui nous écoutez. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Bah, ça reste vos principales questions du moment hein, concernant la gestion active de votre patrimoine. Alors particulièrement quand vous êtes entrepreneur, on a parlé apport cession. Hein, il y a des choses qui ont changé au niveau législatif avec la dernière loi budgétaire dernièrement, et on en parlait hier. Et aujourd'hui, nous recevons Yasmina Brasseur de Neuflize OBC. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de la holding. Mmh. On en a parlé un petit peu hier. Alors c'est vrai que ça a été le grand Satan pendant les discussions budgétaires avant le vote de la loi. Ben non, c'est pas le grand Satan la holding. C'est une pièce maîtresse et indispensable du patrimoine, et particulièrement quand on est entrepreneur, pour gérer un certain nombre de choses. On lui a fait dire tout et n'importe quoi, et c'est bien qu'on remette un peu l'église au milieu du village. Il y a eu des changements réglementaires et c'est toujours le moment de voir un petit peu s'il n'y a pas des aménagements à faire quand on a affaire à cette problématique pour essayer de s'ajuster au mieux finalement.
Exactement. Donc la nouveauté depuis la loi de finances pour 2026, c'est la création de cette taxe holding.
Voilà.
Donc c'est vraiment une nouvelle taxe qui va cibler les sociétés qui détiennent des actifs dits somptuaires, c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas affectés à une activité économique réelle.
D'accord. Donc c'est pas c'est tout ce qui est investissement pas productif pour la vie d'une entreprise. Cela dit, est-ce qu'il existe encore des gens qui mettent dans leur holding patrimonial des yachts immatriculés en France?
Ok, oui. Justement, cette taxe holding.
Non, c'est vrai.
Elle va. Enfin, après, c'est pas non plus la majorité, hein. Mais elle va vraiment cibler les actifs dits plaisir qui sont dans des sociétés. Mmh. Alors la liste est assez claire. Et on a vraiment une liste de biens limitatifs. Donc ça va viser la détention de yachts, de bateaux, de métaux précieux, de chevaux, de vins, de spiritueux. La liste les biens de jouissance qui sont à la disposition du dirigeant ou de son entourage dans des conditions avantageuses.
D'accord.
Donc ça, c'est quand même.
Imaginons quand vous êtes patron d'une multinationale, que vous ayez un petit appart à Amsterdam, par exemple, ça rentre en ligne de compte d'une holding.
Alors, normalement, ce type de biens ne sont pas censés être dans une holding. Les biens de jouissance ne sont pas censés être dans une holding. Et lorsqu'ils sont dans une holding, il faut que ce soit clairement bien encadré, avec un loyer de marché, avec un contrat de bail, etc. Sinon, c'est une détention en direct. Et ça n'a aucun à voir, enfin, ça n'a pas de lien avec une activité économique réelle.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, cette modification qui a eu lieu, bon, qui oblige certains entrepreneurs à revoir un petit peu leur plan. Globalement, elle va vers une logique implacable, qui est que, bah oui, on met pas dans une holding patrimoniale, quand on est chef d'entreprise, des choses qui concernent pas le fonctionnement de l'entreprise.
Exactement, c'est un peu du bon sens. Mmh. Alors après, ça va pas concerner toutes les sociétés. Il y a quand même des conditions pour que cette taxe s'applique. Il faut que la société 1 soit à l'IS, qu'elle soit détenue au moins, contrôlée au moins à plus de 50% par une personne physique ou son groupe familial. Et surtout, elle va viser les sociétés qui détiennent plus de 5 millions d'euros d'actifs en valeur brute. Donc, c'est quand même des conditions cumulatives. Et enfin, dernière condition importante quand même, c'est que cette société perçoive des revenus dits passifs, donc des dividendes, des loyers, des coupons d'obligation. Donc, si l'ensemble de ces conditions réunies, là, on retrouve cette taxe holding. Alors, l'impact est quand même important parce que cette taxe holding, c'est 20% de l'actif dit somptuaire. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, vous perdez la valeur patrimoniale du bien. Donc, c'est ça qui est important de savoir.
Ouais.
Après, cette taxe, elle va venir s'appliquer donc pour les exercices clos au 31 décembre 2026.
Oui.
Donc, on a encore un peu de temps pour faire quelques arbitrages et quelques corrections pour éviter cette taxe de 20% sur l'actif dit somptuaire.
Et sur ce genre d'arbitrage, je suppose que ça doit concerner pas mal de vos clients. Quelles sont les principales directions vers lesquelles on se dirige?
Alors avant de faire ces arbitrages, il faut déjà faire un audit et être sûr qu'on est vraiment dans toutes ces conditions, sachant que c'est la société qui paye cette taxe quand la société est en France. Mmh. Donc on fait un audit, on regarde le niveau des revenus passifs, on regarde si les actifs sont bien affectés ou non à l'actif opérationnel. Si c'est pas le cas, en effet, il y a des arbitrages, donc c'est une cession, on sort du bien de la société holding. Mmh. On fait une distribution en nature. Où on fait en sorte que ce soit affecté à une activité économique, ce qui n'est pas toujours évident.
Oui.
On est bien d'accord. Par exemple, des lingots d'or n'ont rien à faire dans une société opérationnelle.
Non, on est d'accord.
Donc, on procède à une
cession. On n'est pas une banque centrale.
Distribution.
Hein.
Exactement. Ah, oui. Et pour les biens de jouissance qui sont dans ces sociétés à l'IS, loyer de marché, vraiment important. D'accord. Contrat de bail. Ouais. Alors après, vous allez me dire, sur des biens d'exception, parfois, le loyer de marché, c'est pas facile à déterminer. Donc, il faut vraiment faire plusieurs expertises.
Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des cas où ces biens considérés comme somptuaires... Alors, le listing est assez clair. Oui. Mais est-ce qu'il y a des fois où il y a des cas vraiment d'ambiguïté sur actifs productifs et actifs somptuaires? Je pense justement pour des sociétés qui ont des gros besoins de représentation, qui considèrent peut-être que, alors je dis n'importe quoi, que le yacht, c'est un petit peu là où on traite les affaires. C'est des cas exceptionnels, on est d'accord.
C'est exceptionnel quand même.
Et le yacht, c'est devenu tellement un point de fixation pendant les discussions autour de cette loi. Mais est-ce qu'il y a des moments, et je pense notamment, alors peut-être pas aux lingots, mais aux trésoreries, à certains aspects comptables, est-ce qu'il y a des fois, il y a du frottement entre la considération entre bien somptuaire et bien productif?
Alors les actifs financiers, eux, sortent. Hein. C'est vraiment une liste limitative.
Ouais.
Pour les biens de jouissance ou yacht, avion, il faudra vraiment prouver que en dehors de l'affectation opérationnelle, on ne l'utilise pas à titre personnel. Et c'est ça où ça va être vraiment difficile, puisque cette taxe vise les sociétés qui sont contrôlées par des personnes physiques ou son entourage. Donc on voit bien que ça va être compliqué de prouver que le yacht dans une société,
évidemment,
c'est vraiment à des fins opérationnelles.
C'est pas une machine-outil, si on est d'accord.
Si l'objet social de la société, c'est vraiment l'exploitation du yacht toute l'année. Là, c'est de l'activité opérationnelle.
Ouais,
mais quand c'est un mixte, ça va être vraiment très compliqué. Après, c'est la première année.
Oui.
Donc, ça va être une année test. Et après, on n'est pas sûr que ça va tant rapporter que ça.
Oui, au final, vous ne pensez pas que ce soit d'un impact.
Non, parce que la liste est quand même limitée. Ouais. On a jusqu'au 31 décembre 2026 pour faire des arbitrages. Ouais. Je ne suis pas sûre que cette taxe va vraiment rapporter au Trésor public. Mais voilà, c'était aussi un point. On vise vraiment les holdings. Il y a eu beaucoup d'abus et parfois, il faut faire.
Il y a eu énormément d'abus sur ce terrain-là, les années passées?
On peut le voir, oui.
Ouais.
Vraiment.
Donc bon, bah c'est.
Mais après, la holding reste quand même un outil de gestion.
Mais oui, ça, on l'explique à longueur de journée. Hein. Encore une fois, la holding, c'est ce qui va gouverner votre patrimoine et particulièrement quand vous êtes chef d'entreprise. Ben merci beaucoup pour ces précisions, Yasmina Brasseur. Neuflize OBC. On va passer au journal des Small et Mid Cap.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Et nous allons retrouver Eric Lewin de Bourse Direct. Bonjour Eric.
Bonjour mon cher Antoine.
Alors, un petit coup d'œil sur nos indices small et mid cap. On va commencer doucement à tirer un petit peu les leçons de cette première partie d'année. Ce qu'on voit, alors si on regarde juste la semaine écoulée, on a quand même des small et mid qui sont un petit peu mieux comportés que le CAC 40, qui sortait quand même d'un très bon trimestre. Mais il y a eu un petit attrait là pour les small et mid et pas mal d'activités sur certains titres.
Oui, alors, enfin, ce qu'on peut dire, on fera un grand résumé, je serai en plateau la semaine prochaine pour faire le grand résumé du semestre. Bon, franchement, c'est vrai que ça va un petit peu mieux cette semaine, puisque les CAC Small gagnent 1,3%, CAC Mid gagne 0,8%. Enfin, depuis le début de l'année, c'est flat. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a l'IPO du slip français qui continue. Sinon, on a quand même un essoufflement sur les valeurs liées à l'IA hein, cette semaine. En un mois, même Calray, moins 38%, Ribère, moins 30%. Alors, par contre, deux CRSI, plus 48%, parce qu'il y a eu des rachats de short après Grizzly qui avait fait baisser le marché. Vous vous rappelez, Grizzly, c'était le vendeur à découvert qui avait dit que les contrats aux États-Unis n'existaient pas. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des analyses qui sont de plus en plus positives sur la valeur en se disant que Grizzly a été beaucoup trop loin. Et puis, il va y avoir pas mal de news attendues. Projet européen Diageo Factories, l'entrée en production du partenariat avec Valeo pour deux CRSI, ou encore le lancement de la nouvelle génération de processeurs, ce qu'on appelle les Vera Rubin de Nvidia. Ça pourrait bénéficier au titre. Ce qu'on peut dire de façon globale, c'est que le titre n'est pas très cher sur une VE sur ROC de 10, mais on reste quand même dans l'ultra spéculation, puisqu'il y a une attaque, il y a des défenses de la part de DCRSI. Il faut suivre de ça de très très près.
Bon, un petit coup d'œil sur les titres qui ont fait l'actualité cette semaine. Alors, on a eu évidemment Abivax qui a animé la cote, qui gagne encore 4,5% là, 122,75 €. Nous, on va parler de CAFOM. Qu'est-ce qui se passe autour de CAFOM ?
Bon, déjà, pourquoi je vous parle pas d'Abivax? C'est parce que je considère que comme on fait un journal des small et mid, Abivax vaut quasiment 10 milliards de capi.
Oui.
C'est beaucoup plus gros même que Renault qui est au CAC 40.
C'est
donc
ça.
Je me suis dit, je vais pas vous en parler, mais j'ai suivi de près. Donc, CAFOM, pas mal. Alors, c'est un spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-mer. Il y a notamment 31 magasins, notamment des buts à La Réunion et aux Antilles. Eh bien, écoutez, le titre est quasiment, Antoine, à son plus haut niveau depuis 3 ans, tout simplement, parce que ça se passe plutôt bien. Chiffre d'affaires semestriel en progression de 6,3% à 235 millions d'euros. Il y a un taux de marge brute à 53%. Il y a un EBITDA qui augmente de 4% à 30 millions d'euros. Ce qu'on peut dire également, c'est que l'action, même si elle est en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année, elle n'est pas très chère. Ça vaut 10 fois les bénéfices. À noter également que la société CAFOM détient plus de 60% de ventes uniques. Le spécialiste de la vente de meubles sur Internet qui cartonne, qui se tient très bien. Donc on n'en parle pas beaucoup de cette action CAFOM. De même que vente unique, mais il y a des très beaux parcours en bourse.
Oui, effectivement, puis c'est dans des secteurs qui ne sont pas réputés super porteurs. Si on regarde du côté des grosses capitalisations, mais on a des small et mid cap dans la distribution qui se comportent beaucoup mieux.
Oui, écoutez, tout à fait, elles se portent bien. Alors, dans la distribution, le seul contre-exemple que j'ai envie de vous donner quand même, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vous en parle parce que je connais la boîte, c'est Roche-Beaubois, qui perd 21% depuis le début de l'année. Et paradoxalement, on aurait pu penser que Roche-Beaubois se tiendrait beaucoup mieux parce qu'il y a un pricing power, parce que c'est des meubles qui valent beaucoup plus cher que ce que vendent vente unique. Mais on a le sentiment que dans ce secteur, justement, eh bien les Français, notamment les ménages, bien finalement, essayent de faire des économies et donc ne vont pas au plus cher, hein, comme on peut voir pour certains groupes de luxe, mais vont plutôt dans des formats où c'est moins cher. Et c'est vrai que Roche-Beaubois, il y a du pricing power, mais c'est quand même des meubles extrêmement chers. Et donc c'est pour ça qu'il y a une désaffection sur les titres. À noter quand même que sur Roche-Beaubois, il n'y a pas beaucoup de volume, puisqu'il doit y avoir 300 à 400 titres par jour avec une capite de 250 millions d'euros. Mais sur Roche-Beaubois, on est au plus bas depuis 3 mois et on est proche des plus bas depuis 5 ans.
Bon, on va parler quand même de la vedette du moment dans le domaine de la défense. Exel Technologies, ex-membre de la galaxie familiale Gorgé, avec des dynamiques d'OPA et notamment du côté de Safran qui étudie la question. Alors, c'est vrai que c'est le même reproche qu'on pourrait faire vis-à-vis d'Abivax. Maintenant, est-ce que c'est encore une small et mid Exel Technologies? Ça devient fou quand même.
Ouais, alors ça vaut 2 milliards. Alors, ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est que le 12 juin dernier, l'action avait plongé tout simplement parce qu'ils avaient annoncé un pas indifférent avec leur partenaire financier ICG dans le cadre du refinancement du groupe. Ils n'étaient pas d'accord sur le prix de refinancement. Je vais pas rentrer dans ces détails, mais ça avait fait chuter la valeur. Et puis on a appris, je crois que c'était vendredi dernier, que Safran s'intéresserait à Exail Technologies et serait rentré en négociation avec le groupe pour une éventuelle acquisition au prix de 128,50 €. Pour l'instant, autour de 120-121 €. Dans la mesure où les investisseurs attendent de voir pour savoir s'il y aura opération. Ce qu'on peut dire quand même sur Exail, carnet de commandes de plus de 1 milliard d'euros, on est quand même sur un super groupe. L'an dernier, 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, EBITDA de 100 millions, 40% dans les drones et robots sous-marins, 40% dans les systèmes de navigation, 20% dans les technologies aérospatiales. La problématique, c'est qu'on a le sentiment quand même que c'est un peu cher payé. PER, j'ai refait les calculs ce matin, 64 fois 2026, 32 fois 2027, alors que c'est vrai que c'est un très très beau groupe, qui a quand même perdu 25% par rapport à son plus haut, on était autour de 160 €. Je crois qu'il faut attendre, c'est beaucoup trop tard pour revenir sur ce dossier. Il faut attendre de savoir si, oui ou non, Safran va croquer Exel Technologies. Comme je le disais chez Guillaume lundi soir, Safran c'est 140 milliards de capi, Exel c'est 2 milliards, donc il n'y a pas de sujet pour croquer cette pépite. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres offres concurrentes? Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est bien. C'est bien que dans le monde des small et mid, il y a un peu d'adossement, il y a un peu de pression spéculative, parce que, je vous assure, c'est vrai qu'on s'ennuie, parce que les fonds ne sont pas là, et on sent que très bien depuis 15 jours, 3 semaines, qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de particuliers sur les small, et donc c'est un peu l'ennui qui nous guette.
Ben oui, les arbitrages sont faits, j'allais dire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités en plus autour de... On en parlera plus en détail la semaine prochaine, des secteurs qui ont vraiment cartonné du côté des small et mid, mais on va dire que l'essentiel des arbitrages sont faits du côté de la santé, des biotech, des medtech, etc. On sentait un vent positif justement avec Exail, peut-être avec Exosens aussi, hein, qui pourrait peut-être devenir aussi une proie intéressante pour un grand groupe de défense. Mais parallèlement, on sent que dans ce secteur de la défense, on l'a vu avec l'annulation pour le moment de l'introduction en bourse de KNDS, le spécialiste franco-allemand des chars, on sent que c'est des dossiers à chaque fois très politiques, très compliqués et qui peuvent paraître décevants.
Oui, alors bon, sur cette histoire de KNDS, pour moi, c'est pas décevant, c'est un problème de valorisation, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, je crois qu'ils, alors quand ils disent les conditions de, j'ai bien regardé, quand ils disent les conditions de marché plus favorables, on est quand même dans des marchés pas trop mauvais. Je crois que c'est simplement, je pense que la valorisation n'aurait pas pu dépasser 12 milliards sur cette opération financière, alors que les actionnaires familiaux, notamment les Allemands, hein, eux ne voulaient pas lancer avant 12 milliards et demi, et ils voulaient même 15 milliards il y a une dizaine de jours. Donc en fait, on parle de conditions de marché, mais en fait c'est qu'une histoire de valorisation, là. Franchement, c'est une histoire de valorisation, puisque même il y a 6 mois, on parlait de 20 milliards. Donc c'est vrai que quand vous passez de 20 milliards à 12, vous vous dites, on va pas lancer. Non, ce qu'il y a, c'est qu'à part le site français qui est en pleine opération, il n'y a pas grand-chose vraiment en ce moment. On a eu quand même un premier semestre très pauvre en IPO, et un premier semestre aussi assez pauvre en opération financière. Alors, il y a eu quelques trucs, on en parlera la semaine prochaine, notamment sur des dossiers comme Instalux. Il y a toujours le feuilleton de la fermière du casino municipal de Cannes qui n'en finit pas. Mais enfin, ça reste quand même des petits dossiers qui font pas vraiment l'actualité. C'est des dossiers, excusez-moi l'expression, réservé à des des initiés. Et comme d'un autre côté, il n'y a pas d'IPO, et ben c'est vrai qu'on tourne en rond avec toujours les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on pourrait toutes les semaines parler des Calred, des deux CRSI, d'Exocen, d'Exalt Technologies. Ce sont les seules valeurs qui font la tendance. Peut-être de temps en temps l'informatique, pour peu que Capgemini ou Accenture disent attention, je peux être concurrencé par l'IA, le secteur baisse. Puis s'il y a un autre qui dit non, finalement, je vais pas être concurrencé, c'est bien pour moi, le secteur remonte. Mais c'est vrai qu'on a du mal. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde tourne un peu en rond, toujours sur les mêmes valeurs. Vous pouvez pas aller sur les valeurs en dessous de 300 millions d'euros quand vous êtes un gérant, et donc vous tournez sur les mêmes, les Abivac, les Exact Technology. Est-ce que ça va changer? Il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus d'opérations financières au second semestre, parce qu'on risque encore de s'ennuyer ferme, et on le voit avec la progression des indices, on est quand même complètement flat depuis le début de l'année. Quand je vois quand même les progressions qu'on voit en Asie, Taïwan, le Kospi, le Nikkei, et même sur les bourses américaines, c'est vrai que l'Europe, on a le sentiment que ça fait quand même figure de parent pauvre dans les performances des bourses depuis le début de l'année.
Merci Eric Lewin, Bourse Direct, et on se retrouve à un rendez-vous épris la semaine prochaine pour un bilan complet des small et mid cap depuis le début de l'année et perspectives pour le second semestre. Merci beaucoup, et sous vos yeux ébahis, là, dans quelques secondes, je vais réaliser un miracle de la géométrie, je vais faire entrer un carré dans un triangle. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Elle était bien ma vanne débile, hein. Wendy Souvanarat.
Bonjour Antoine.
Alexandre Leng de Carré Partners, dans un plateau triangulaire, voilà.
C'était donc ça.
Ok, passons à autre chose. On va parler, avec vous, spécialiste du private equity, spécialiste de la tech. La question qui nous a le plus passionné là ces dernières semaines dans Tout pour investir, c'est la question du cloud et de l'IA, donc ce boom phénoménal qui nous amène à des considérations de souveraineté. Et je ne me lasse pas de citer cet exemple de l'Allemagne qui, mais sans même scier d'un millimètre, nous a sorti il y a quelques mois, oui, on va construire notre cloud souverain avec Amazon. Génial.
Superbe.
Voilà le
acteur international. Donc.
Et donc, du coup, nos administrations françaises, elles ont un petit peu plus de jugeote, with all due respect, pour nos amis allemands qui nous écoutent peut-être. Mais on va choisir un acteur, alors peut-être de petite taille, mais qui fait le job, qui sait bien faire. Et on a vraiment, on semble avoir une prise de conscience qui est salutaire, qui est peut-être un tout petit peu tardive, mais au moins qu'il nous faut du souverain et des données qui restent chez nous.
Ouais, absolument. Et je pense que vous faites bien de le rappeler, Antoine. Si on se rappelle rapidement cette saga du 12 juin qui démarre avec d'un coup Anthropique qui se met à arrêter brutalement et soudainement Mythos et Fables. Alors, est-ce qu'on était sur effectivement cette faille de sécurité et où ce petit signal géopolitique? Ce qui est certain, vous l'avez dit, c'est qu'effectivement on a eu ce sujet de la souveraineté qui est né. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché français, et vous avez raison, cette prise de conscience, elle est nécessaire, même si potentiellement un peu tardive, c'est qu'on a deux acteurs finalement qui émergent. Le premier, on le connaît tous, c'est Mistral AI. On est sur notre champion de l'IA générative en France, qui est valorisé 11,7 milliards en septembre 2025 et qui nous parle d'un tour pour une levée de 3 milliards et une valorisation cible de 20 milliards. Bon, on va les suivre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est une boîte qui est assez récente, qui est née en 2023, qui n'est évidemment pas encore rentable et qui est bien loin des champions américains sur lesquels on viendra, mais qui sont évidemment à des années-lumière. À côté de ça, on a eu une annonce assez intéressante à Vivatech, d'OVH, notre fameux champion européen, pour le coup, sur le cloud, hein, donc l'hébergement un peu plus global.
Au qui nous a annoncé là-bas qu'on salue.
Ouais, exactement.
Régulièrement.
Ouais. Exactement. Et qui nous a annoncé donc quelque chose assez, assez important, parce que se lancer dans la course de l'IA. Comment? Et notamment via des acquisitions, eh bien, sur le chiffrement des données, sur des modèles de LLM, sur des IA vocales. Alors, on se rappelle, OVH, c'est 1999. Donc, à côté de la start-up un peu naissante de Mistral, on a un acteur établi, peut-être plutôt même une ETI industrielle, en réalité, qui est déjà rentable, qui génère 1 milliard de revenus, et qui, au final, a quand même finalement un beau potentiel devant lui pour se, pour peut-être se démarquer aussi avec Mistral. Maintenant, et là, vous l'avez justement dit, est-ce à temps, est-ce tardif? J'aurais quand même rappelé que, en parallèle de ces valorisations, hein, parce que typiquement, OVH, c'est 2,5 milliards. On se l'est dit, Mistral autour de 11,7 en l'occurrence. À côté de ça, on a des valorisations US de 965 milliards sur Anthropic. Bon, les arbres ne montent pas juste au ciel aux États-Unis, parfois un peu quand même.
Maintenant, non, mais c'est une question intéressante parce qu'on se la pose aussi sur BFM Bourse, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 1000 milliards de dollars de capitalisation pour être quelqu'un sur ce monde de l'IA et de la tech. Je prenais comme exemple ASML qui en est pas tout à fait loin de ce seuil symbolique. Ben oui, parce que malgré tout, il y a un phénomène de plafond de verre, Alexandre Leng, et qui gêne ces acteurs pour trouver la rentabilité, pour trouver la bonne marche de leur business. Et en gros, c'est ça finalement le problème.
On a ce phénomène de plafond de verre, hein, il gêne pour attirer des capitaux étrangers, notamment, et de manière massive. Aujourd'hui, moi j'aime bien faire cette analogie avec l'immobilier, parce que bon, tout le monde comprend. Vous pouvez avoir la plus belle maison du monde, par exemple à Lacanau, si je prends le sud-ouest d'où nous arrivons. Vous la mettez, si vous êtes dans cette zone-là, hein, elle va difficilement dépasser les 2 millions d'euros.
Ouais.
OK? Vous mettez la même au Cap Ferret, là, elle peut monter à plus de 10 millions d'euros. Et puis là, pareil. Voilà. Si on est à Paris, il y a une grosse différence entre avoir un appart de 150 mètres carrés dans n'importe quel arrondissement, hein, dans le 18e, le 20e, et puis en avoir un qui a la vue sur la Tour Eiffel. Si la vue sur la Tour Eiffel, d'un coup, les prix par mètre carré moyen, on en sort. On est capable d'en sortir. Ouais. Et c'est exactement le même phénomène aux US. En fait, c'est un sujet d'offre et de demande. Comme tout le monde souhaite investir aux États-Unis, naturellement, en fait, on a des valos qui explosent. Et puis après, ça fait une sorte de cercle vertueux pour les boîtes américaines. Comme les valos peuvent exploser, naturellement, les investisseurs veulent investir parce qu'ils vont réussir à avoir des croissances de des valorisations, qu'on soit sur les marchés cotés ou non cotés, qui peuvent être de l'ordre de x2, x3, x5, même annuellement parfois. Et on le voit avec des Anthropic, d'OpenAI et toutes ces boîtes pré-IPO, ces licornes tech américaines. Là où un modèle opérationnel, à qualité opérationnelle équivalente, je pense à nos licornes françaises, des Doctolib, des Alan, d'autres qui ont vraiment des superbes boîtes, hein, à la fois en termes de revenus, de services, de produits, on a des valorisations qui stagnent. Ça reste à 5 milliards, 6 milliards. On dépasse très difficilement en Europe les 20, 30 milliards de valo, que ce soit sur les marchés cotés ou non cotés.
Donc, effectivement, ce phénomène de plafond de verre. Wendy, juste, on a parlé d'Alan, on a parlé de Doctolib. Ces deux boîtes sont signataires d'un truc là qui est sorti assez récemment, disant « Ouais, mais il y en a marre de ces histoires de souveraineté, laissez-nous choisir nos modèles d'IA qu'on veut et notre cloud qu'on veut. » Puis Doctolib, dont on se sert tous les jours. On a juste envie de leur dire, vous avez juste compris le monde dans lequel on vit ou bien?
Et c'est tout le sujet. Je pense que c'est tout le sujet. C'est le sujet de la France, mais en réalité, c'est aussi le sujet de l'Europe. Aujourd'hui, Alexandre l'a dit, 70% du cloud souverain européen est dans les mains des Américains. Donc à un moment donné, AWS, Google, Microsoft, c'est le monde dans lequel on vit. Donc on peut décider effectivement de vivre en vrai, mais un petit peu dans notre caverne, ou alors quand même effectivement s'ouvrir au monde, parce qu'aujourd'hui c'est la réalité du marché.
Et puis en termes d'investissement, on a un OVH qui gagne un marché à 300 millions, hein, un peu moins de 300 millions, et puis à côté de ça, on a Amazon qui annonce que pour le cloud souverain européen, vont investir 7,8 milliards. Voilà.
et CQFD.
Ouais, voilà, plafond de verre, taille critique. Non, non, mais on est d'accord et vous avez vraiment défriché le sujet. Juste un truc, est-ce qu'on pourrait revenir sur les grosses licornes du moment ? C'est vrai qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps, on disait, tiens, c'est marrant, le mot licorne est complètement sorti du scope. Ben non, il y en a et elles nous intéressent. Alors c'est vrai qu'il y a Doctolib, il y a Alan dont vous avez parlé, on en a beaucoup parlé aussi. C'est vrai que c'est une super innovation. Il y a Revolut aussi, bon, qui n'est même plus une licorne, ça c'est carrément...
Revolut qui effectivement sur l'Europe, alors c'est pas l'Union Européenne, hein, qui est celle qui se détache et qui effectivement arrive à passer les 100 milliards de valo. C'est vraiment l'exception chez nous.
Et là, en France, qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui commence à avoir des valorisations intéressantes ?
Bah, on a Penny Lane qui continue de croître très fortement, qui s'impose chez tous les experts comptables, qui avec la facturation électronique continue encore sa percée.
Je rigole, excusez-moi, j'ai leur jingle dans la tête, on le passe toute la journée. C'est et bah, c'est... Ça va, tout va.
Et effectivement, et qui attire des investisseurs étrangers qui lui permettent justement d'accélérer cette croissance et de payer les jingles.
Oui, parce que ça...
parce que c'est important aussi.
Non, mais ça coûte des sous. Et puis on voit des licornes, alors dans tout autre sujet, mais qui leur principal budget, c'est quand même le marketing plus que.
Non, et puis après on a des belles innovations en France. On a quand même des boîtes dans la quantique. On a des Alice et Bob. On en a d'autres hein, qui des Pascal qui effectivement se détachent, arrivent à attirer des capitaux aussi. Alors on n'est pas encore sur les ordres de grandeur américains parce qu'en équivalent américain, on a des PsiQuantum qui sont sur encore un autre niveau, mais qui si on compare les technologies sont pas si loin. Ouais, et c'est ça que je pense qui est intéressant mais qui est dommage, c'est que on a des talents, ouais. on a de belles boîtes, mais bon, on a un environnement aussi peut-être politique, et de taxes et autres qui nous limitent quand même, limitent les entreprises françaises dans leur capacité à attirer des capitaux étrangers.
Et puis aussi, ce sera le mot de la fin, et puis ça constitue quand même votre menu du jour de vos longues journées, c'est toujours gérer ce stade qui est toujours compliqué entre le late stage.
Exactement.
Donc le plongeoir et la bourse au bout.
Exactement.
Et ça, c'est un phénomène très complexe, surtout dans le contexte actuel de marché et les valorisations.
Ah, tout à fait. Aujourd'hui, la bourse est devenue... Alors avant, je pense que c'était la ligne d'arrivée. Maintenant, effectivement, c'est un peu la ligne parfois de débat. En fait, non, voilà. Exactement. Maintenant, on sait que le marché, effectivement, s'est reconstitué, qu'une grande partie de la création de valeur se fait avant l'introduction en bourse. Et c'est vrai que nos champions français, on a quand même envie de les soutenir parce qu'on reste patriotes et on a envie d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, voilà, la réalité américaine est encore très avancée sur le sujet. Les capitaux mondiaux sont très présents transatlantiques, mais on continue de soutenir nos champions.
Ça aussi, c'est un enjeu de souveraineté. On en reparlera la prochaine fois. À chaque fois, c'est trop court. Merci infiniment d'être venu.
Merci beaucoup, Antoine.
Wendy Souvanarat et Alexandre Leng de Carré Partners. C'est fini pour cette semaine, TPI. Demain, c'est la masterclass de Christopher Dembick. Dans un instant, Marie-Cœur de Roy, les experts IMO. Je vous retrouve à 15h30. Eh bien non, je vous retrouve à 17h pour BFM Bourse parce qu'aujourd'hui, il y a une spéciale pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.